Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une femme qui a opté pour le développement personnel dans la subtilité. S'améliorer, changer, se découvrir, oui, mais sans forcément perturber son entourage et lui faire peur. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Fatine Eraqi, merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Fatine?
Ça va très bien. Et je suis ravie aujourd'hui de faire partie du podcast.
Merci infiniment, Fatine. Alors, vous êtes dirigeante dans le BTP, vous êtes ingénieure en génie civil. Et pourtant, vous vous exprimez énormément sur l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Alors que souvent, ces métiers-là étaient considérés comme les métiers des plus forts mentalement. Quand on est ingénieur, on a fait de longues études difficiles, on est capable de tenir le stress et la pression. Et vous, vous venez casser un petit peu ces stéréotypes.
Oui, c'est vrai. Moi, j'estime qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir une force de caractère. On ne peut pas réussir à son poste de direction sans préserver sa santé mentale. C'est très important. Mmh. La base. Pour moi, c'est la réussite.
Vous êtes passée par là? Vous avez connu ça?
C'est-à-dire des difficultés?
Des difficultés mentales, absolument. Surtout que dans un... Je pense, corrigez-moi si je me trompe, mais quand on est dans le BTP, c'est un milieu d'hommes. Donc, en plus du travail, de la charge du boulot, il y a aussi cette charge mentale à devoir faire sa place, à devoir se faire accepter par un environnement masculin.
Alors, c'est intéressant comme question parce qu'on me la pose souvent.
Ouais.
Je pense que, je dirais, ma force ou mon point de vue, c'est moi, de par, je pense, ma vision des choses... Je ne me suis jamais posé cette question. Je me la pose quand on me le demande.
D'accord.
Quand on me dit, Fatine, en tant que femme dans le BTP, comment ça se passe? Là, je réfléchis, j'essaie d'analyser pour apporter une réponse.
Oui.
Maintenant, personnellement, j'ai grandi de par mon parcours personnel, surtout parce que j'ai grandi en expatriation. J'ai grandi là où la diversité était la norme. Et donc, pour moi... ce qui a toujours été important, ce sont les compétences, en fait, techniques, cognitives. C'est une histoire de personnalité, de rencontre, de communication. Et en fait, je me suis toujours positionnée dans ce sens-là. Donc, je ne me suis jamais dit « Ah, ben, en fait, je dirige une équipe de 50-100 personnes et je suis la seule femme ». C'est vrai que je ne me suis jamais posé cette question. Et pour répondre à la question, forcément, je vais me mettre dans cette position. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai ressenti. Et puis, même si peut-être un jour on me le faisait ressentir, j'en sais rien, je ne le vois pas. Je me concentre vraiment sur mon travail et je pense que c'est ce qui fait que ça marche. Et c'était ma vision des choses, en fait. C'était ma position.
Je comprends parfaitement, justement, qu'on fasse parfois abstraction de ces choses-là, qu'on peut venir nous rappeler lors d'une interview ou d'une discussion, mais voilà.
mais après, j'ai envie de dire que... Là, on peut parler de femmes dans le BTP, mais on peut parler de plein de choses. C'est comme entreprendre aujourd'hui, je crée mon entreprise, entreprendre quand on a un poste à responsabilité, quand on a déjà un salaire confortable, etc. Ça reste un risque, un défi. Donc les gens, c'est pareil, j'ai envie de dire, les gens posent des questions, c'est normal, hein, c'est une sorte du regard de l'autre, des peurs qu'on peut voir, des stéréotypes, et j'entends, et il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je pense que mon parcours personnel a fait de moi quelqu'un qui ne prend pas forcément en considération, on ne voit pas en fait. Je ne vois pas forcément la différence. Je vois plus des ressemblances, des connexions entre les choses, les gens, que des différences.
Alors vous avez dit, j'ai vécu dans l'expatriation, donc vous êtes partie très tôt pour suivre vos parents, j'imagine, dans différents pays.
Oui, à l'âge de 3 ans, donc je suis née au Maroc, et à l'âge de 3 ans, on est parti en expatriation dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Donc j'ai grandi là-bas jusqu'à l'obtention de mon bac et j'ai continué encore plusieurs années à y aller chaque vacances puisque mes parents y étaient encore, mes sœurs y étaient. Donc moi j'ai eu ce parcours en fait vraiment d'expatriation où j'ai été amenée à changer de pays, à vivre le changement, et depuis très petite, avec toutes les phases de transition qu'on peut imaginer psychologiques. Et donc, je pense que c'est pareil, en fait, dans les métiers de direction, de management, etc. C'est un peu... je fais le lien.
Mais pourquoi c'est important pour vous de parler mental, justement, parler bien-être mental dans ce monde professionnel d'aujourd'hui?
Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que je me suis rendu compte d'une chose qui, pour moi, est vraiment importante. Chaque personne, c'est-à-dire les patrons, les dirigeants, les actionnaires, etc., leur but, c'est que l'entreprise fonctionne. Mmh. On va peut-être même dire que bon, le but, c'est aussi que ça fonctionne très bien et que financièrement, ça marche. Et en fait, moi, ce que j'explique, c'est que, OK, pour arriver à ce but, si vos salariés ne se sentent pas bien, si la santé mentale n'est pas respectée, si les gens ne sont pas motivés, n'ont pas envie de travailler, ils ne sont pas productifs. S'ils ne sont pas productifs, derrière l'intérêt de l'entreprise, les enjeux de l'entreprise, ne sont pas réalisés. Et du coup, moi, c'est ce que je peux constater. Quand les gens se sentent bien mentalement, c'est important de prendre en compte. Quand ils ont un équilibre aussi entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, eh bien, ils arrivent à aimer ce qu'ils font. Et du coup, à bien travailler, à faire un travail de qualité, et l'entreprise ne peut que mieux se porter. Et donc, en fait, on a tout intérêt à être à l'écoute de ce bien-être.
Je suis d'accord avec vous, absolument. Maintenant, vraiment, je vais prendre un raccourci. Évident, vous allez le voir à travers ma question, c'est qu'encore une fois, dans votre domaine à vous, c'est un domaine plutôt masculin. Est-ce que les hommes... Oui. S'ouvrent facilement? Est-ce qu'ils parlent facilement de leur santé mentale? Est-ce que ce n'est pas plutôt, quand on est dans le BTP, c'est un métier masculin à la dure?
Alors, c'est une très bonne question. Je pense que ça dépend du manager. Par exemple, moi, je vais avoir un management qui est très carré, je vais être très organisée, très ferme, tout en étant souple, à l'écoute. Et moi, j'invite, ça c'est ma façon de manager, j'invite à la communication. Donc, en fait, j'échange beaucoup avec les équipes à tout niveau. Ça n'empêche pas d'être carré, de faire son travail, d'être vraiment sur les objectifs. Mais j'estime que s'ils ne se sentent pas bien, si ça ne va pas psychologiquement, et bien, en fait, le résultat n'est pas là et on le constate. Donc, moi, j'invite à la communication et je me suis rendu compte, depuis 2009 que j'exerce ce métier, que non, les hommes ne sont pas fermés à la communication, ne sont pas fermés à discuter de leurs émotions et de ce qu'ils ressentent, et que pour eux aussi, l'équilibre de leur vie privée et professionnelle, ainsi que la santé mentale, est quelque chose de très important chez eux. C'est juste qu'on ne les invite pas, en fait, à communiquer dessus.
Mais quand on les y invite, mais est-ce qu'il faut les y inviter en tête-à-tête? Est-ce qu'il faut il faut protéger un petit peu aussi cette image d'eux-mêmes?
Oui, alors ça, c'est une très bonne question parce que oui. Moi, je l'explique aussi dans mes formations. C'est très important en tant que manager d'avoir des discussions en tête-à-tête avec la personne, avec chaque personne en fait de son équipe d'ailleurs, et de préserver aussi ce qui se dit, un peu comme un médecin ou un avocat. Moi, je me considère comme telle en fait. Quand la personne, elle vient m'expliquer certaines choses, quand on communique, quand on discute, quand je donne des conseils, quand je suis surtout à l'écoute de ce que la personne a envie de transmettre comme information, eh bien, en fait, c'est un lien de confiance. Moi, je pense qu'il faut faire attention parce que si on vient rompre ce lien de confiance, eh bien, en fait, après, c'est compliqué de s'ouvrir émotionnellement. Donc oui, j'invite des communications vraiment avec chaque personne de son équipe. C'est très important.
Alors, justement, avant de venir en aide aux autres, il a fallu aussi vous comprendre vous-même parce que vous dites, quand vous écrivez sur un poste, que lorsque vous avez eu votre premier poste de responsabilité, il y a 10 ans de cela, vous n'avez fait que travailler, vous refusiez tout moment de famille, de bien-être, il fallait bosser, on est responsable, donc on est responsable.
Exactement.
À 200% avec vous, je pense.
C'est exactement ça. C'est vrai que moi, j'ai démarré, je ne vais pas donner mon nombre d'heures par semaine parce qu'il était excessif et énorme. J'avais cette soif, et je l'ai toujours en fait, d'apprendre. Et c'est vrai qu'au début, sans forcément respecter, je pense, mon rythme ou me connaître. C'est quand on démarre, je pense, comme n'importe quelle personne qui démarre en fait dans le monde du travail en tant que manager, et ben en fait on a envie de se positionner et on a envie de montrer qu'on est légitime. Et cette légitimité, ben on l'a par la compréhension de ce qui se passe autour, par la connaissance, par le savoir. Donc on est là pour apprendre et montrer qu'on est capable. Et donc c'est vrai que oui, je travaillais énormément. Et je mettais certainement, et c'est sûr, de côté ma vie personnelle, et c'est pour ça que je peux en parler. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ma vie personnelle faisait partie de mon équilibre, qu'en mettant à côté aussi, à la même place, voire une place plus importante, ma vie personnelle, c'est comme ça que je pourrais apporter encore plus de qualité à mon travail et au côté professionnel. Donc c'est quelque chose qui était très... qui du coup a été très important, que j'ai pu constater au fur et à mesure de mes postes, effectivement.
Alors, ça, c'est, cette prise de conscience, elle s'est faite comment ? Est-ce qu'elle s'est faite naturellement ? Est-ce qu'elle s'est faite dans votre chair ? Est-ce qu'elle s'est faite parce que l'entourage s'est plaint de votre rythme de vie ? Comment ça s'est passé, en fait ?
Alors, un peu de tout,
ouais.
mais ce qui m'a permis de passer à l'action, de faire une introspection, etc., donc on en parlera. C'est plus un jour, en fait, j'ai pas pu me relever. Voilà. Donc, j'avais mal au dos, j'avais mal partout, je pouvais plus me relever parce qu'en fait, je faisais beaucoup de déplacements. Donc, j'avais parfois 4 déplacements par semaine. J'avais des chantiers à gérer sur toute la France. Donc, je gérais quand même entre 15 et 20 chantiers en parallèle sur différentes villes. Et un jour, le corps, en fait, l'esprit, le cerveau, il a beau tourner, être super stimulé, hyper content de certaines choses. Le corps, à un moment donné, il dit: moi, j'y arrive plus, stop. Et là, en fait, il n'y a même plus une histoire de prise de conscience. Là, on n'a plus le choix. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu tout ça qui a fait que du coup, je me suis dit, OK, il y a une réflexion à faire. Il faut qu'on fasse les choses intelligemment. Et c'est là où, du coup, derrière, je me suis posé plein de questions. J'ai fait une introspection, du coup, sur moi-même, sur ce qui était important, les valeurs. Enfin bref, je pense qu'on en viendra. Mais c'est à ce moment-là, en fait, où... où il y a eu, on va dire, je dirais pas un avant, un après, mais une suite logique des choses.
Alors justement, quand on voit que son corps ne répond pas,
Ça fait bizarre parce que quand les idées sont là, le cerveau est là et que tout peut tourner, mais qu'en fait le corps ne suit pas, c'est très perturbant, ça déstabilise et ça permet aussi de revenir à l'essentiel, de se dire, OK, en fait, je pense que j'ai un peu dépassé les limites et que... peu importe en fait la vitesse à laquelle je réfléchis ou j'ai envie de faire les choses, il faut aussi que je suive le rythme de mon corps parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je connecte beaucoup cet équilibre entre le cerveau, le cœur, le corps. Donc je parle aussi des émotions, etc., pas mal dans mes postes, et qui est cet alignement en fait. C'est hyper important de le respecter.
C'est incroyable, mais j'ai eu plusieurs femmes qui m'ont parlé de... parce que c'est un burn-out, en quelque sorte, que vous avez vécu.
Alors, je ne dirais pas vraiment ça. C'était plus un jour... c'est vrai que c'était plus mon dos qui ne suivait pas. Je n'ai pas vécu de burn-out, parce qu'après, j'ai continué, mais tout en rééquilibrant. J'ai travaillé autrement, j'ai organisé mes journées autrement. Étant donné que, du coup, j'avais déjà une légitimité à mon poste, du coup, par exemple, au lieu de me déplacer... 4 fois par semaine, je me déplaçais peut-être toutes les 2 semaines, mais je restais 3 jours. Disons que je me suis réorganisée, intelligemment, autrement.
Mais il faut l'accepter déjà, il faut accepter de se réorganiser. Il faut le vouloir, j'imagine que si vous avez fonctionné comme ça, c'est parce que c'était vos croyances, c'est comme ça qu'il fallait faire.
Alors, je ne sais pas si c'est les croyances ou parfois la réalité du terrain et du poste, comme vous l'avez dit au début. Je pense qu'il y a une réalité, c'est-à-dire on était sur un changement, on était sur une restructuration. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Et souvent, en fait, il peut arriver à des moments que sans se rendre compte, la direction puisse mettre peut-être... trop de travail, en fait. Il faudrait peut-être recruter plus de gens, mais ça, c'est d'autres sujets. Et du coup, on se retrouve avec une grosse charge de travail. Après, si on a la conscience professionnelle plus comme moi, du coup, on a envie de bien faire quand même. Et on ne va pas se plaindre en se disant « bon, je pense qu'il faudrait qu'on soit plusieurs ». Il y a un peu plus ces réalités-là, la réalité du terrain, en fait. Et donc voilà. Donc après, quand on a de la maturité, quand on avance en expérience, en compétence, et bien là, on sait se positionner face à ce qu'on nous demande et on sait proposer des solutions qui vont correspondre à la mission, mais qui vont aussi respecter son rythme.
Quand vous dites se positionner, quand on a plus de maturité, on est capable de se positionner, mais est-ce qu'on peut dire non ?
Alors, en fait, ça dépend ce qu'on appelle non. Moi, ce que je vais dire, c'est je vais plus. Moi, je suis vraiment dans la communication et dans la négociation et dans l'échange, l'argumentaire. Par exemple, si on me demande quelque chose, on me dit bah voilà, il faut faire ci, de telle date, etc. Je ne vais pas dire non si j'estime que c'est un enjeu et qu'il faut le respecter, il n'y a pas de souci. On a quand même des métiers très difficiles par rapport à ça. Ce que je vais dire, c'est que si vous voulez que ce but soit respecté, eh ben, il faudra peut-être prévoir tant de personnes, tant d'équipes, il faudra prévoir peut-être cette organisation. Et si vous ne prévoyez pas ce plan d'action, eh bien, voici les conséquences. Après, il faudra les assumer. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus ça, en fait, que j'appelle la maturité. C'est d'avoir cette capacité, en fait, de compréhension, puisqu'on a cette expérience, et de pouvoir l'amener avec confiance et expliquer et argumenter. Et je peux vous assurer qu'en face, quand vous argumentez ce que vous avez, ce que vous proposez, et les gens, ils sont convaincus, ils vous suivent. Et ça, je l'ai vu à plusieurs reprises.
Alors, Fatil Araqi, est-ce que cette transformation professionnelle a déteint aussi sur votre vie personnelle ? Est-ce que vous vous êtes transformée entièrement en tant que personne ? Je ne vais pas dire en tant que femme, mais entièrement en tant que personne, en tant qu'individu ?
Je pense qu'on grandit au fur et à mesure et on s'affirme en tant que personne au fur et à mesure. Et je pense que la réponse, c'est certainement oui. Moi, j'ai fait un gros travail de connaissance de soi et j'ai une des méthodes que je propose qui accompagne dans ce sens où j'ai fait une introspection sur ce qui était important pour moi, sur ce qui était mes valeurs en fait, sur le rythme que je voulais avoir de vie. Et il est évident que les prises de conscience dans la vie, les déclics qu'on a, ont forcément un impact, je dirais, positif, parce que si on est bien, forcément c'est positif autour de soi, ont forcément un impact en fait, que ce soit dans sa vie personnelle et professionnelle, puisqu'on est, on est une seule personne, donc tout est lié.
Bien sûr.
Donc je dirais que oui, en fait, assumer qui on est, oser être qui on est dans son, dans sa globalité, l'assumer pleinement, c'est pas chose facile, mais ça fait un bien fou, parce que les gens qui vous entourent finissent par comprendre. Et si je peux rajouter quelque chose, ça aide aussi les personnes qui vous entourent, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, à suivre ce chemin de la connaissance de soi et du respect de soi. Donc ça ne peut être qu'un impact positif.
Absolument. Mais en même temps, quand la transformation s'opère, quand le changement est en action, ça perturbe. Pardon ?
Vous parlez de la transition, en fait.
Absolument, ça perturbe l'entourage. Si on doit revenir au milieu professionnel, ça perturbe ceux qui connaissaient Fatine, la fonceuse.
Eh bien, en fait, ça, après, je pense qu'il n'y a pas de changement. C'est pour ça que je ne parle pas toujours, même si j'utilise les mots de changement, pour moi, il n'y a pas vraiment de changement. Il y a juste une continuité logique. Il n'y a jamais eu, les gens n'ont jamais vu chez moi un avant et un après hyper catégorique. Ça s'est plus opéré, on va dire, en moi. Et puis, je pense qu'on n'a jamais vu cette, c'est pas une cassure, mais on n'a jamais vu, en fait, d'extérieur, je pense, quelque chose de vraiment très, très différent. Je l'ai fait au fur et à mesure de façon naturelle. En fait, c'est juste qu'on revient à soi. Et je pense plus c'est naturel, plus en fait on se rend compte qu'on est dans le vrai. Vous voyez, il n'y a pas eu de changement en fait catégorique qui a fait dire ah mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Absolument, absolument. C'est-à-dire que le changement n'est pas forcément, ne doit pas forcément faire peur s'il n'est pas brutal.
Non, moi c'est vraiment pour moi c'est une continuité naturelle des choses. C'est une histoire de logique, c'est une histoire de compréhension, c'est une histoire de maturité. Et elle se fait au fur et à mesure. Jamais les choses se transforment du jour au lendemain de façon complètement catégorique. Et moi, je parle, même si on utilise ces mots de changement, transformation, que ce soit pour une entreprise qui se transforme ou pour une personne qui veut passer d'un point A à un point B, pour moi, il y a... C'est plus une continuité, c'est-à-dire elle va venir avec ses bagages perso-pro et puis elle va rajouter des choses. Mais elle ne va pas devenir un alien ou non.
Parce que quand on parle de transformation, de découverte de soi, c'est comme vous dites, ce n'est pas forcément quelque chose qui doit amener à un autre extrême en fait.
Mais bien sûr, pas c'est du ça. Tout. Moi, j'ai été quelqu'un d'authentique, je le suis toujours, j'ai toujours été une bosseuse, je le suis toujours, j'ai toujours été quelqu'un de vraiment hyper empathique, tout mon fond a toujours été là, c'est juste que peut-être la façon de faire ou de présenter les choses vont être un petit peu différentes, par exemple si je vais proposer un plan d'action, j'en proposerai peut-être un autre, mais pour les personnes qui sont en face, le but sera le même en fait.
C'est ça.
Donc, se détacher du regard des autres aussi, parce que c'est quelque chose d'hyper important dans tout ce qu'on vient d'aborder. Si on est dans le vrai, si on ose dire les choses sans avoir peur de ce que les autres vont penser, et ben en fait, ça peut que bien se passer. Mais ça, il faut oser le. Il faut oser le faire.
Alors Fatine El Arki, merci infiniment d'avoir un petit peu dilué aussi tous ces messages de développement personnel, de transformation de soi, parce que quand on entend ça souvent, ça veut dire devenir une autre personne, se découvrir complètement différemment, alors que vous dites non, attention, c'est vrai qu'on peut se découvrir sans faire peur aux autres, et voilà, tout est dans la subtilité.
Exactement.
Voilà. Merci Fatine El Arki, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, merci à vous.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.